c'est ça. Y a-t-il des questions sur comment décodifier indépendant, proximité, coopérative lors de vos récits? C'est bien clair?
Oui. Pour moi, était une chose pas claire.
Ok, pose une question.
Je parle de ce que j'ai appris dans mon travail.
Peut-être, Christine, tu peux le lire, c'est toi qui l'as écrit.
Qu'est-ce que... C'est parce qu'elle veut demander.
Okay.
Je sais, mal le côté travail, coopérative, etc.
Ce qui t'a plu, c'est ton...
Non, mais c'est pas ça. Les coopératives, ça veut dire avec des équipes ensemble.
Ça veut dire avec des personnes ensemble sans clarification de rôle. Par exemple, lorsqu'on est tout le monde ensemble autour d'une table à manger un souper, on ne dit pas que Tamar, toi tu fais ceci, Jean-Guillaume tu vas faire cela, et Bernadette tu fais ceci. Mais non, on n'accorde pas des rôles à ce moment-là. Lorsqu'on est dans un brainstorming, on voit tout le monde parler ensemble, peut-être sans accorder de rôle bien spécifique. S'il y a une tâche que tu fais ou tu as décrit, et il y a des rôles. Par exemple, si je parle de la formation, ça présuppose qu'il y a un formateur et des gens qui reçoivent la formation. C'est des rôles bien clarifiés.
C'est de la proximité.
Ça, c'est la proximité. Ok, chacun son rôle.
Alors, la seule chose que je trouve, c'est que l'efficacité diminue lorsqu'elle travaille.
Ça dit quelque chose?
Oui, lorsqu'elle travaille seule.
Excuse me, moment. Ça veut dire quoi, bip?
On n'a pas de problème de charge, de batterie.
Non, j'ai des batteries pleines. Ok, elle me parle, mais elle n'est pas très claire. Elle fait quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Bon, attends, j'échange de folder. Ok. Et donc, nous voyons que le style est quand même très important pour le design des espaces de travail. Si quelqu'un a besoin d'être tout seul pour être productif, il a besoin de pouvoir fermer la porte. Et en proximité, on doit pouvoir communiquer avec ses pairs, avec ses collègues. Et quelqu'un qui a un style coopératif et dont il n'y a que les 20% de la population au travail, besoin vraiment d'un espace type ouvert. Vous êtes sûrement rendu compte que quand vous avez fait la décodification de vos réponses, que vous avez peut-être plus d'un style. C'est-à-dire qu'il y aurait des moments dans le travail où vraiment vous avez besoin d'être indépendant et d'autres moments où c'est en conjonction, style proximité avec des autres. Il y a d'autres moments aussi qu'on peut travailler tous ensemble sans déligner des choses. L'idée, c'est que pour décodifier, si la personne dit « nous »,« on », là, ça entame, il n'y a pas de distinction de rôle. Si je dis « je fais avec mon équipe », j'ai quand même distingué moi et les autres. Il y a des exemples, mettons par exemple, coopératif, je vous ai donné, proximité, c'est « j'ai conçu le nouveau logiciel avec mon équipe ». Bon, ça c'est clair, la personne, elle dit « je », donc « territoire ». Et je crois que c'est normal que 80% de la population a besoin d'un territoire, que ça soit tout seul ou que j'ai mes choses et vous avez vos choses. Vous savez, à chaque fois qu'on doit partager un bureau avec quelqu'un, la première chose qu'on fait, c'est mon bureau, c'est mon étagère de livres, ça c'est à vous. C'est-à-dire, on divise le territoire. Et ici, dans le style, on parle de la territoire de responsabilité. Et il n'y a que 20% qui n'ont pas besoin de territoire. Il y a eu un autre mode dans le design des bureaux qui a duré à peu près 15 minutes, temps métaphorique, où personne n'avait son bureau à lui. Et que tu réservais le type d'espace dont tu avais besoin ce jour-là. Et donc ça a duré 15 minutes parce que tu imagines avec les dossiers, tu dois avoir tous tes dossiers avec toi à tout moment. Alors aujourd'hui j'ai besoin d'une salle de réunion, demain j'ai besoin d'un ordinateur. Alors, vous voyez, c'était la bonne idée de quelqu'un. Et il avait quel style cette personne qu'il a fait?
Ça existe dans les entreprises.
Ça existe encore, mais il n'y a personne qui est content.
Un gros cartable, enfin moi j'ai vécu ça.
Tu as vécu ça, oui. Et est-ce que tu étais contente?
Pas du tout.
Pas du tout. Il n'y a personne qui a aimé ça. Mais quel était le profil de la personne qui a eu cette bonne idée?
Coopératif,
parce que lui n'avait pas besoin, et interne, pas besoin de territoire lui-même, et donc pourquoi les autres auront besoin? Donc c'est interne, parce qu'il décide pour lui.
Pour les autres.
et pour les autres. Mais il y a un autre schéma qu'on va voir après lorsque je décide pour les autres. Ok, ça on n'a pas encore fait. Y a-t-il des questions ou des commentaires sur style, indépendant, proximité, coopérative? Ou est-ce que tout ensemble, nous comprenons tout? Je pourrais vous dire les choses et vous pouvez aller dans votre coin réfléchir, mais ensemble, je pense qu'on a compris. Vous voyez? Alors, parce qu'il y a bien sûr un langage de persuasion avec ça. Bien sûr. Indépendant, si tu veux motiver quelqu'un qui a un style indépendant, vous lui dites, ben, vas-y tout seul, on ne va pas te déranger. Bien sûr, ça c'est motivant. Si c'est quelqu'un à proximité, vous pouvez déliminer les rôles. Toi, tu vas faire ceci, moi je vais faire cela. Coopératif, c'est le nous ensemble, tout le monde, on va partager la responsabilité, faire de la fun, tout le monde ensemble. Indépendant, on lui dit, par exemple, tu n'auras pas d'interruption. Il y a personne qui viendra te déranger là-dedans. Ça, c'est un peu éloignant. Et tu as le contrôle. Voici ta responsabilité. Proximité, la personne a besoin elle-même de responsabilité, d'un territoire de responsabilité, mais ça doit être en conjonction avec les autres. Alors, on peut lui dire, vous allez diriger ceci, ou bien vous allez suivre un tel, etc. On dit le rôle. Et ça, c'est marqué au début de votre livre lorsque j'ai fait les résumés de langage de persuasion. D'accord? Donc, tout est là sur les pages de devant. Alors, mais je vous avais dit que ceci, pour des mêmes questions, on a deux catégories de réponses. Là, maintenant, on va passer au suivant. C'est à la page 29 et on appelle ça l'organisation. Est-ce que la personne se concentre plus sur les sentiments, les pensées et les personnes, ou est-ce qu'elle concentre plus, est-ce qu'elle s'organise pour se concentrer sur les idées, les systèmes, les outils et les choses matérielles? Donc, c'est personne ou chose. Et là encore, c'est contextuel. Il y a deux schémas. Quelqu'un qui a un schéma personne dans un contexte donné, elle est centrée sur les pensées, les sentiments, soit les leurs, soit ceux d'autrui. Mais on parle en termes de personne, on pense aux personnes, on pense en termes de relations. Et le vécu, je vais porter mon attention soit sur mon propre vécu ou le vécu, l'expérience de quelqu'un d'autre et la personne elle-même. Alors que quelqu'un qui a plus... ça c'est un exemple que je vois. C'est un genre de construction qui normalement est une chose, n'est-ce pas? Mais avec son sourire et tout, on voit que vraiment il y a un style personne, n'est-ce pas? Ça c'est un exemple, c'est pas loin de chez moi, on a trouvé ça, il fallait que je prenne en photo, fait avec du foin. Alors le deuxième schéma, c'est chose, ça c'est une personne qui concentre sur les produits, les idées, les outils, les mécanismes, les procédures, tout ce qui est chose. Et c'est révélé dans le vocabulaire de la personne. Alors voici un exemple que j'ai pris sur les Champs-Élysées. C'est le siège social de Louis Vuitton. Ok, c'est une chose. Alors tu m'as vous imaginez travailler là-dedans?
C'est rigolo.
Voilà, il n'y a pas de fenêtre. Voilà, pas sur ce côté-là, il n'y a pas de fenêtre. J'étais ici au mois de mai, j'ai dit, ah, faut que je prenne ça en photo. Et là, justement, ça c'est un bureau et ça a l'air vraiment d'une malle. On dit. Ben voilà. C'est impressionnant, hein.
Oui, mais c'est aussi l'affiche de.
C'est sur les Champs-Élysées.
C'est sur les Champs-Élysées, oui.
Oui.
C'était là au mois de mai.
Donc c'est nouveau.
Ça faisait un bon moment, j'étais pas sur les Champs-Élysées, je pourrais pas vous dire. Mais c'est quand même impressionnant, n'est-ce pas? Et j'ai dû le prendre en photo justement parce que c'est chose, c'est l'essence de chose. Et vous voyez là, l'image avec mon petit personnage là, lui il croit que son travail c'est de porter les boîtes. L'exemple des deux personnes qui se parlent au téléphone, j'ai fait quand même pas mal de conseils pour les centres d'achat, sur les centres d'appel. À votre avis, pour être performant dans les centres d'achat, faut-il embaucher des gens et un schéma de choses ou de personnes?
Personne.
Personne. Donc, on a fait le design d'une annonce irrésistible pour les personnes, schéma personne. Vous voulez savoir ce que c'est? C'est la plupart du temps, dans certains domaines, les centres d'appel, c'est des... des travaux à temps partiel, et c'est souvent les femmes, parce que il y a une autre capacité nécessaire aussi, c'est ce qu'on appelle le multitasking, capacité de faire les tâches multiples. Et il y a plus de femmes qui sont en mesure de faire ça que les hommes. Je suis désolée, monsieur, mais bon. Et alors, donc on a créé des publicités pour attirer les personnes qui vont aimer le job et qui vont être performants dans le job. Et c'est les gens à personne. Pas 100% personne, mais bon, 75% personne. Et alors, le titre de l'annonce, c'était « Est-ce que ça te plaît de causer avec tes amis au téléphone ?» Point d'interrogation. On a le job parfait pour toi. Voilà. Alors, ça appelle les personnes qui sont capables d'avoir une vraie conversation et non pas une conversation mécanique. Vous voyez? Là, vous vous appelez les centres d'appel, vous savez tout de suite si vous avez une vraie personne en bout de ligne, hein, ou si vous avez quelqu'un de style mécanique. N'est-ce pas? Bien. Alors, chose. Alors, comment est-ce qu'on fait pour identifier le schéma? Tourne la page à peine, la page 30. Les questions étaient, parlez-moi d'une expérience au travail, parce que là, on parle du contexte du travail, n'est-ce pas? Qui était un de vos critères? Là, vous avez écrit le bla 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 bla.
Oui, oui,
et la deuxième partie, en quoi cela t'a plu? Alors, c'est la deuxième partie de la question qu'on va regarder maintenant, pas la première partie. Quelqu'un qui a un schéma personne, elle parlera des personnes. Mais j'ai travaillé avec Madame Untel. Elle a nommé la personne. Si elle dit le nom des personnes, si elle parle du vécu de la personne, elle était contente de mon travail. Vraiment, on a apprécié. Tout ça, c'est le schéma personne. Quand la personne va parler des processus, des systèmes, des résultats, bon, nous avons eu des résultats intéressants. Pourquoi ça t'a plu? Parce qu'on a réussi à résoudre le problème. Ça, c'est chose. Parce qu'on a parlé de la chose. Si elle parle des personnes et des vécus, c'est personne. Donc, vous allez déployer parce qu'il y aura probablement un mélange, une partie chose, une partie personne. Donc, allez voir votre partenaire et décodifier. Yes. Alors, comment faire?
Ça me fait réfléchir, je l'ai mis en chose, mais je me pose la question maintenant, est-ce que c'est une émotion, est-ce que c'est...
Alors, pourrais-tu nous lire ça? Ça, c'est ta réponse à toi?
Non,
c'est à Florence. Florence, c'est OK qu'on le lise? OK, vas-y.
Sur le pourquoi ça t'a plu, ça me plaît parce que ça me fait réfléchir sur ce que j'ai fait depuis le début et ce que ça apporte en termes de contribution.
Alors, ça me fait réfléchir, est-ce que c'est une expérience ou c'est une chose? C'est ce qu'il vit. Donc, c'est personne. Et la dernière partie de la phrase, c'est quoi? Ça, c'est la première partie.
Oui, sur ce que j'ai fait. Donc
sur ce que j'ai fait est une chose. D'accord. Ensuite.
Depuis le début, ce que ça apporte en termes de contribution.
Ce que ça apporte en termes de contribution, ces choses. Donc, dans cette phrase-là, première partie est personne parce qu'il parle de son vécu, son expérience. Il y a deux autres choses.
D'accord.
Est-ce qu'on peut lire aussi ton exemple qui était personne? Ça va?
Florence,
pourrais-tu nous lire l'exemple de Véronique?
Alors, j'avais l'impression d'être complètement dans la relation, la sensation d'être congruente, d'avoir la bonne attitude, d'être juste.
Ok, donc elle parle de ce qu'elle vit, des émotions. Mais tu sais, on peut faire les traductions. Moi, j'ai eu une cliente une fois qui avait un schéma tellement chose que même lorsqu'elle parlait des émotions, elle les rendait en chose, en objet. Qu'est-ce qu'elle disait en anglais? C'était yes, I have fear about that. C'est parce que j'ai de la peur, dans le sens que c'est une chose que tu peux tenir dans la main. C'est comme ça qu'elle l'exprimait. Elle dit pas ça me fait peur. Non, ça c'est une expérience. En français on dit j'ai peur, mais elle le disait en anglais comme si c'est quelque chose qu'on peut posséder. Il y a des personnages politiques, par exemple, j'ai donné ces exemples dans mon livre. Je me souviens, on avait eu un référendum au Canada et que ça n'a pas été dans le sens des hommes politiques qu'ils auraient voulu. C'est-à-dire parce qu'ils ont utilisé un langage externe, il faut que vous votiez oui. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose,
oui.
Ok?
Oui.
Il faut que vous votiez oui, parce que sinon on va avoir un désastre complet. Alors, il paraît que vous avez eu un événement un peu récent ici, un peu similaire. Alors, la plupart de la population dit, vous me dites pas quoi faire, et ils ont voté non. Ça vous dit quelque chose,
oui,
ça?
Oui.
Mais un de nos hommes politiques, lorsqu'on lui a demandé d'analyser les réactions des gens, il a dit l'électorat était de mauvaise humeur. Alors, l'électorat, c'est quoi?
Une chose.
C'est une chose. Il n'a pas dit des gens qui votent. Mais c'est pas, c'est ni mauvais ni bon. Vous souvenez peut-être du film L'Arnaque, avec Robert Redford et Paul Newman. Alors ces deux arnaqueurs qui veulent tirer plein de pognon d'un monsieur. Est-ce qu'ils se concentrent sur l'objectif ou est-ce qu'ils se concentraient sur la personne et ses émotions pour pouvoir réussir?
C'était sur la personne.
C'était sur la personne à 100%. On a vraiment fait très attention à toutes ses émotions. Tout ça pour vous dire, c'est pas une bonne ou une mauvaise chose. C'est juste une façon d'organiser, c'est pour ça qu'on appelle ça l'organisation, d'organiser son attention. Où est-ce qu'on porte son attention? Et là, on va voir, il y a des choses très, très, très culturelles, surtout dans le monde du travail. Il y a un incident que j'aimerais vous parler, et j'ai la permission de mon client aussi. Je fais une fois dans l'année du travail au Mexique. Et là, la première année où je suis allée pour justement animer un cours, on avait négocié un prix pour l'animation. Alors j'ai dit à ce monsieur, et en plus, voici le prix des documents de cours par personne. Et là, il me répond en email, il disant, mais vous savez, tu sais, Shirley, le Mexique est quand même un pays très pauvre, les gens vont pas pouvoir se payer et la formation et les documents de cours. Alors, j'ai dit, ok, bon, pour cette fois-ci, on est d'accord, on ne paye pas ça parce que tu avais déjà établi les prix, etc. Mais la prochaine fois, on remet à niveau. Alors, il a fait toute une histoire de pauvresse de Mexique. J'arrive, il me ramasse à l'aéroport avec une voiture qui doit valoir la moitié de ma maison. Tu comprends? Alors, j'ai dit, oh, voyons. Je me dis dans ma tête, il y a quelque chose qui se passe là. Je fais mon cours, on a vraiment une expérience merveilleuse parce que travailler au Mexique avec les Mexicains, alors vraiment on a un plaisir pas possible. Vraiment c'était dans la joie. Là l'année prochaine, il m'envoie un courriel disant tu reviens l'année prochaine, même condition. J'ai dit mais Rodrigo, on était d'accord que c'était pour la première année, la deuxième année tu payes les documents de cours. J'estime que c'est normal, je les écris, c'est comme ça que je gagne ma vie. Là, il m'écrit, mais Shirley, il faut que tu comprennes que les gens au Mexique sont des pauvres. Alors, trois paragraphes de ça. Alors là, je me fâche. Je décide. Il me fait trois paragraphes, je fais trois paragraphes. J'ai compris un peu le schéma. Alors, je dis, il faut comprendre, Rodrigo, je suis une mère célibataire. J'ai deux fils à élever. De plus, j'ai ma secrétaire de bureau, elle a aussi une famille. Je ne peux pas me permettre à ne pas faire payer parce que j'ai deux familles à soutenir. Tout de suite, lui renonce, il dit d'accord. Alors, j'arrive et je vois, il me ramasse à l'aéroport, mais il n'est pas content. Il y a une tension, une énorme tension. Moi, j'ai l'impression qu'il voulait m'arnaquer. C'était ça son intention. Lui, son impression, c'est que je ne le soutiens pas dans sa mission. Et on est des professionnels de la communication, tous les deux, donc on décide d'en parler. Donc on prend une soirée, et ça a pris toute la soirée, et au moins trois bouteilles de vin au restaurant. Ben oui.
C'est qui l'a bu?
Tout le monde. Ben, ça veut dire lui et moi. Et là, c'était pas coopération, c'était lui et moi, c'était plutôt proximité. Et là, vous savez, le business dans différentes cultures, c'est différent. Aux États-Unis, au Canada, le business, c'est une chose. Mais en Amérique latine, c'est quoi? C'est relationnel. Ça vous dit quelque chose dans les différentes cultures dans lesquelles vous travaillez? Alors moi, je pensais sur la chose. C'est, ils ne comprenaient pas le business. Ça se paye. Tu fais un service, etc. C'est ça. Comprenez, vous entendez cette chose. Et lui, il a une mission, il veut aider les gens à se développer au Mexique. Et il y a deux instituts. Non seulement il voulait que je travaille dans la ville du Mexique, mais que je travaille aussi dans une autre ville, via Hermosa, dans l'état de Tabasco. Mais il ne voit pas comment, parce que c'est clair que je ne soutiens pas sa mission, ce qu'il essaie de faire avec les gens. Vous voyez, alors on a passé quand même quelques heures dessus et on s'est rendu compte que lui, c'était par rapport à la relation. Et là, lui, il ne me faisait pas confiance. Comment peut-il me faire confiance alors que je pars que du fric? Alors moi, comment est-ce que je pourrais lui faire confiance alors que lorsqu'on est d'accord sur quelque chose, on n'est pas d'accord sur quelque chose? Vous voyez, le conflit, c'est pas une question qu'il y a quelqu'un qui avait tort et l'autre qui avait raison, mais on part des planètes différentes. Alors finalement, on se rend compte qu'on peut élargir un peu ce qu'on fait, et là, il décide, regarde Shelley, c'est pas moi qui paye les formations, c'est les gens qui payent de leur poche ces formations-là. Et on avait parlé de plein d'autres choses, et une de mes rêves, c'était vraiment de vraiment me pousser. Je parle espagnol, mais je voulais quand même continuer à vraiment apprendre l'espagnol. Il dit, si tu venais, et tu fais les deux cours, les deux fins de semaine, sur les mêmes conditions financières, et moi, je t'organise des cours d'espagnol entre les deux, où tu vas vivre dans une famille et tu fais des cours d'espagnol, ça t'irait? J'ai dit, yes! Alors, on s'est mis sur toute une autre base de négociation, et même lorsqu'on était conscient des différences, on n'arrivait pas justement à trouver la solution parce que chacun avait ses valeurs du côté. Alors c'est le grand bonheur, on arrive à se mettre d'accord. Et pour me remercier, Rodrigo dit, j'ai besoin de t'acheter un cadeau. Il y a un cadeau, j'ai pensé à toi, c'est un film que tu vas adorer. C'est un film qui a été fait dans les années 60 en Belgique, c'est une histoire juive. Et c'est l'histoire d'une fille qui renonce à son judaïsme et qu'elle en a marre, mais elle vient d'une famille de survivants des camps. Et le film, titre en anglais, et ça c'est vraiment porteur, le titre en anglais c'est « Left Luggage ». Le bagage, comment tu dirais, délaissé, abandonné. Parce que l'histoire de son père, c'est que avant la guerre, lorsqu'il savait qu'il allait être déporté, c'est dans la ville d'Antwerp en Belgique, il creuse un trou puis il met tous ses objets de valeur dedans. Là, il le ferme. Mais après la guerre, il cherche ses affaires. Donc, il est devenu un peu dingue. Alors, on le trouve un peu partout, en train de creuser des trous, en cherchant son violin, ses livres préférés, etc. Et le titre en anglais, c'était « Left Luggage », le bagage abandonné ou laissé. Mais le titre en espagnol, c'est ce que ce monsieur dit tous les jours à sa fille. « Ne pars jamais sans dire que je t'aime ». Et ça, c'est quel schéma?
Personne.
Et ce qui est intéressant, le titre en anglais, c'était sur les choses, et le titre en espagnol,
sur les émotions.
Nunca te vayas sin decir te quiero. Ne pars jamais sans dire que je t'aime. Et là, il m'a offert ce film. Je suis rentrée, je l'ai vu avec mes deux fils. On a braillé pendant 3 heures de temps. Et maintenant, c'est la règle dans notre famille. On ne part jamais sans nous dire qu'on s'aime. Oui. Donc c'est un truc très culturel, cette histoire de personnes et de choses. Et vous allez vous rendre compte, quand les personnes parlent, est-ce qu'ils parlent de la chose, des résultats, ou bien de vécu qu'on a pu avoir? Et le langage de persuasion, justement, reflète ça. Si moi je te dis, Françoise, ceci, cela, je suis en train d'engager toi en tant que personne. Si je parle des choses qu'on a à faire, les tâches, là je m'organise mentalement pour focaliser sur les choses. Et on peut faire les deux en même temps. Si par exemple vous faites le métier de formation, est-ce qu'il faut réfléchir, s'organiser en termes de choses ou de personnes à votre avis? Et à quelle proportion?
Les deux.
Mais dans quelle proportion?
Moi je dirais la personne d'abord et la chose après, il faut qu'elle comprenne.
Toi tu dis la personne d'abord et ensuite les choses?
Ouais, moi je pense que les choses en sont des résultats, des buts, des processus en premier et de la personne.
Et la personne?
Moi je dirais 60% choses, 40%
personnes. Jean-Guillaume, j'étais avec toi. Je me suis dit, ok, formation, il doit avoir des résultats. Et s'organiser pour faire attention aux personnes est un moyen pour achever le but de l'apprentissage. Et pendant au moins 15-20 ans, j'ai pensé ça. Et depuis 2-3 ans là déjà, j'ai décidé d'expérimenter. Parce qu'on ne sait pas si on a raison ou on a tort, on fonctionne comme si. Alors ce que j'ai décidé de faire depuis au moins 2-3 ans, c'est que je fais personne pendant que je parle de la chose. Et je trouve qu'on a des meilleures conditions d'apprentissage là maintenant. Mais c'est juste tout nouveau que j'expérimente ça et je ne suis pas convaincue que j'ai raison. C'est une hypothèse que j'ai. Donc vous avez remarqué que la plupart du temps, je prenais vos noms.
Oui.
Et je me souviens de ce que vous m'avez dit. Je fais un effort de faire ça parce que je suis en train de tester mon hypothèse. Si on s'organise pour prêter son attention vraiment, vraiment à chacune des personnes et au groupe, comme si le groupe est une personne, pour amener vers l'objectif, est-ce que ça change en termes de résultats, d'apprentissage et de plaisir, etc. Alors, c'est à vous d'évaluer votre propre chose. Qu'est-ce que tu dis, Laurent?
Je suis tombé sur la bonne période.
Ah oui. C'est toi qui dis ça, n'est-ce pas? Alors, ta réponse, c'était quoi? Donc, je vous propose ça comme hypothèse. Oui.
Moi, je pense que c'est important.
L'idéal, en fait, c'est d'avoir 50-50, parce que je sais que j'ai été longtemps, moi, personne dans mon équipe, à me demander à faire attention aux personnes, qu'elles soient heureuses, qu'elles arrivent chaque matin, si elles allaient bien dans leur travail, si elles étaient motivées, etc. Donc, plus personne que tâche à accomplir, et donc... donner des règles comme ça, un cadre. Et en fait, je me suis aperçue que c'est nécessaire parfois. Même, il faut être personne, bien sûr, mais donner un cadre, des règles aussi, quoi.
Et vous voyez, rien qu'en écoutant ce que tu dis, Rosie, on voit, tu es dans la personne et tu essaies d'amener des choses. Alors, vous pouvez commencer à écouter tout le monde. Tout ce qu'une personne va dire, il relève soit d'une expérience ou d'un objet. Une idée est un objet. Ok, c'est une chose. Et vous commencez à trier, à savoir où est-ce que la personne met l'équilibre, la balance des choses. Et justement, je suis venue aussi à la conclusion que personne-chose, c'est presque une caractéristique de motivation comme les autres qu'on a vues hier, et avant-hier. Parce que ça change tellement le vécu. Lorsqu'on se concentre, lorsqu'on le change. Psychothérapie, si tu es 100% personne, tu n'as pas de résultat avec tes clients. Faut quand même, au lieu de juste parler avec la personne et être avec elle, faut quand même la faire quelque chose. Ok, les vendeurs qui sont trop personnes ont peur de demander la décision. Ils sont tellement en train de communiquer avec les personnes qu'ils oublient que l'objectif, c'est de vendre quelque chose. Comme tu dis. Alors, et d'ailleurs, si tu as un vendeur qui a à majorité personne dans la vente, quand on lui dit non, ça lui fait mal. Il est blessé dans sa personne. Voyez-vous? Mais si la personne, elle est 100% chose, alors là, il n'établit pas de relation. C'est-à-dire, il va apprendre les compétences de rapport comme si c'était un outil. Voyez-vous? Voyez-vous, alors il y a différents moments pour faire différentes choses pour les personnes.
Juste pour une précision par rapport à ça, pour moi, quand tu es en relation avec une personne, d'accord, tu discutes, une communication, si à un moment donné tu écoutes le contenu, tu es personne. Mais si tu veux écouter la structure, tu es obligé de devenir chose.
Je dirais, c'est exact, absolument. Si tu écoutes la personne, où tu écoutes la structure de ses pensées et de ses émotions, et donc tu fais un genre de tri dans les deux sens.
Et en action de formation, c'est pareil.
C'est pareil. On est quand même là pour faire quelque chose. L'apprentissage est une chose. Et donc je vous invite de jouer avec ça, mais consciemment. Consciemment. De vous rendre compte du résultat, de vos rapports avec les personnes. Et la manière que vous vous tenez. Voilà.
Donc, dans ton discours, tu l'orientes. Tu disais personne quand tu parles des choses, mais tu as aussi un discours en formation chose.
Ah oui, tout à fait. J'ai un discours, c'est quoi?
Une chose. Son lab profil.
C'est une chose, oui. Oui. Et d'ailleurs, vous allez voir, il y a des cultures d'entreprise, plus personnes, plus choses, suivant le type et les natures de l'activité. Si vous allez recruter quelqu'un pour la réception, vous aimeriez avoir quoi?
Personne.
Un peu plus de personnes que de choses. Mais vous savez aussi, les polices de caractère ont des éléments personnes-choses aussi. N'est-ce pas? Le police que j'ai utilisé là, qui est comique sans MS, c'est plutôt personne. Plus que c'est irrégulier, plus que c'est personne. Alors le Times New Roman, c'est un peu chose. Ariel, c'est un peu chose, sauf pour c'est un peu rond. Donc c'est pas entièrement chose. Mais la manière que les entreprises agissent aussi, ça peut être en personne ou en chose. Alors, là, je mets une échelle. Vous allez répondre à la question. Alors ici, à un bout de l'échelle, on a chose. Là, on a personne. Au milieu, c'est 50-50. Si je parle des gens qui travaillent avec moi, quand je parle de mon équipe, c'est quoi? Des gens qui travaillent avec moi. C'est les personnes. Si je parle de... Oups, sorry, wrong side. Donc, c'est plutôt personne. Si je parle de mon équipe, c'est plus vers les choses. Si je parle de l'équipage, c'est encore chose. Si je parle du head count, comme on dit en anglais, comment vous dites ça en français? C'est le head count, c'est le compte des têtes. C'est chose.
Le nombre de personnes.
Oui, et vous avez une expression en français aussi, c'est des équivalences à temps plein, c'est ça?
Oui.
Ça, c'est quoi? Les ETP, c'est?
C'est chose.
L'effectif.
C'est chose.
C'est chose. Voilà, vous voyez, alors même dans la culture d'entreprise, est-ce qu'on a des employés ou des effectifs, ou l'effectif?
On le voit aussi sur les abréviations.
Les abréviations.
Dans mon domaine, par exemple, on parle beaucoup par abréviation. Les DELD.
Voilà, dans les hôpitaux, on a le cas des reins en 3E. C'est pas la bonne femme qui a un problème des reins, non. C'est
les
rémis.
L'appendicite du 12.
Oui, l'appendicite du 12, voilà. C'est pas une personne, ça. D'ailleurs, quand j'ai eu mon bébé, j'étais à Paris et là, j'ai entendu les infirmières parler de la césarienne.
Oui.
Je dis, ah bon, c'est qui ça alors? Wow! En fait, je voulais savoir c'est quoi ça, mais bon. Donc, vous voyez, on fait le retour. Alors, maintenant, vous avez des oreilles pour entendre ça. Et c'est pas noir et blanc, vous voyez, c'est sur une échelle. L'effectif est plus chose que l'équipe, par exemple.
Ouais. Lorsque tu parles comme ça, j'ai la sensation, surtout que je travaille dans le milieu hospitalier, visé.
Pas directement, personnellement. Tu te sens visé. Alors, moi, ça, c'est personne, n'est-ce pas?
Je ne suis pas un hôpital, mais j'ai tellement entendu dire et je l'ai vécu aussi. On l'entend moins. Mais j'ai la sensation que, justement, nous nous occupons de personnes qui sont dans des problématiques de santé importantes. Et lorsque nous parlons de la pathologie de la personne avec le numéro de sa chambre, quelque part c'est pour se dégager émotionnellement.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est très nécessaire. Je dois vous dire mon expérience. Lorsque mon fils était en traitement pendant un an en chimiothérapie, on voyait que justement pour que ces gens-là, les infirmières, survivent, elles avaient une combinaison entre personne et choses, quelque chose de vraiment, j'admirais. Donc, relation de personne avec les enfants et la famille, et quant au traitement, vraiment un retrait et une objectivité. Et c'est nécessaire.
C'est pour se dégager des émotions.
Eh oui, voilà. Alors, vous imaginez être chirurgien et de penser que c'est une personne que vous coupez?
Eh oui, c'est pas tenable.
Non, alors là, ben oui, ça se ferait pas. Donc, il y a des raisons pour lesquelles on fait ce genre de choses. On a joué une fois à faire les interprétations. Alors, j'ai demandé à un groupe, comment est-ce qu'une personne... qui a un schéma chose, comment est-ce que cette personne-là va dire « je t'aime » Et là, on a eu un professeur de linguistique japonais qui est sorti la chose suivante. Il y a un état qu'on appelle l'amour et je suis là-dedans.
Tomber en amour, ça se dit au Québec.
Oui, je tombe en amour.
Ça vient de l'anglais.
Oui, c'est ça. Mais c'était. Mais j'ai demandé qu'on dise. Vous voyez, on peut faire les interprétations. Et il y a une chanson écrite par deux Canadiennes anglaises où elles disent I hope you have no objections to being the object of my affections. J'espère que tu n'auras pas d'objection d'être l'objet de mes affections. C'est quand même assez chose aussi, on doit dire. L'objet de mes affections.
Wow. Et j'ai pas entendu le début.
comment tu dis je t'aime, c'était qui
J'ai demandé à quelqu'un de traduire je t'aime d'une phrase personne à une phrase chose. Alors il dit, il y a un état qu'on appelle l'amour et je suis là-dedans. Okay. Et c'est une piscine et je me suis mis dans la piscine. Voilà. Bien. C'est, donc on peut s'amuser un peu avec ça aussi. Hein. Ben, c'est ce qu'on dit chez nous. Ben, je l'ai fait plusieurs fois, c'est exactement ça. Tu tombes en amour. Mais en français aussi, tu tombes enceinte. Alors là, je... ça me met à penser aussi. C'est comme mon oncle, j'ai un cousin qui a 5 enfants et mon oncle me dit, ils savent pas la cause. C'est la réflexion de mon oncle. Bien, on va passer à une autre catégorie, à une autre question si ça vous plaît. J'aimerais que vous trouviez quelqu'un d'autre, un nouveau partenaire. Et voici les deux questions. Qu'est-ce qui sera pour vous un bon moyen d'augmenter votre réussite dans votre travail? Ok, là vous écrivez la réponse à la personne. Donc, mettons Jean-Guillaume, je te dis, alors, qu'est-ce qui sera pour toi un bon moyen d'augmenter la réussite que tu as dans ton travail? Là, tu vas réfléchir, j'écris, et ensuite je dirais, et pour quelqu'un d'autre dans ton même métier, qu'est-ce que tu lui diras? Donc, le quelqu'un d'autre, c'est pour quelqu'un d'autre dans ton métier. Donc, qu'est-ce qui sera un bon moyen d'augmenter ton propre réussite et qu'est-ce qui sera un bon moyen pour quelqu'un d'autre, mettons dans le même métier, d'augmenter le sien, la sienne. Ok, vous comprenez la question? Prenez un partenaire, écrivez les deux réponses, s'il vous plaît.
Je comprends pas pour l'autre.
Et quelqu'un d'autre dans ton domaine. Et qu'est-ce qui sera, même question, un bon moyen qu'il augmente sa réussite? Eh bien, on vous a demandé de poser la question, qu'est-ce qui sera pour vous un bon moyen d'augmenter votre réussite? C'est quand même une question gentille, ça présuppose que vous avez déjà de la réussite. Je vais vous dire, à l'origine, quand on va... Ben oui, d'augmenter... Vous voyez, ça passe le test du macho, n'est-ce pas? Je me souviens que la première version de la question que Roger avait développée, c'était qu'est-ce qui sera un bon moyen pour vous dans votre travail d'avoir de la réussite? Alors, ça présuppose que tu n'en as pas déjà. Alors, je me suis dit, bon, ça passe pas le test du macho et donc on l'ajuste un peu. Et augmenter, c'est quel schéma?
Aller vers.
Bon, oui, bien sûr, mais aller vers de quelle manière?
Pareil avec exception.
Donc, sachant que la plupart du monde a ce schéma, ça froisse le moins une personne possible, vous voyez? Alors, et la deuxième question, c'est, et pour quelqu'un d'autre, mettons dans votre métier, un ami, quel sera un bon moyen qu'elle augmente? Ça réussit aussi.
C'est un jugement, alors, après.
Oui, tu peux dire ça, mais on n'écoute pas ça actuellement. On écoute autre chose. Comme toujours, il y a toujours un truc bien visé, n'est-ce pas? Donc, ça peut être... tu peux penser que c'est un jugement et ça pourrait être, mais c'est pas ça qu'on écoute. On écoute autre chose.
C'est personne. Je pense à quelqu'un d'autre.
Oui, on imagine une personne et là, on pose la même question. Mais c'est pas ça qu'on écoute. On est passé maintenant à autre chose. Ça se voit que c'est possible que c'est bien là, mais maintenant on écoute autre chose. Et on appelle ça, justement, la structure des règles. Quelles sont, dans notre terme, les règles de comportement qu'une personne juge appropriées pour elle-même et pour les autres? Et là encore, c'est contextuel. Est-ce que les règles du jeu sont les mêmes pour elle, pour les autres, ou sont-elles différentes? Alors, on appelle ça la structure des règles, c'est à la page 31, on va regarder ça. La première, le premier schéma s'appelle à moi, c'est-à-dire mes règles pour moi, mes règles pour vous. Et justement, ce sont des règles, des structures des règles. On utilise cette catégorie justement pour regarder les compétences de leadership des personnes. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi après. Mais on va d'abord regarder les schémas. Quelqu'un qui a un schéma à moi, a des règles pour lui-même et il a des règles pour les autres. Parfois ce sont les mêmes règles, parfois ce sont des règles différentes, mais il a une réponse à la première question et il a une réponse à la deuxième question. Et vous voyez, non, il peut avoir les détails aussi. Je peux donner plein de règles ou je peux te donner un overview de règles. Et vous voyez en bas dans la discussion, 75% de la population dans le contexte du travail a un schéma à moi, parce que c'est basé sur une croyance. La croyance, c'est ce qui marche pour moi, ça va marcher pour toi. Si jamais dans votre vie, dans ta vie, tu as dit, si j'étais à ta place, c'est ça. Parce qu'en fait, excusez-moi, je vous donne mes excuses, mais je vais à la réalité pour un instant. Excusez-moi, j'en suis désolée, mais de temps en temps, il faut quand même y aller. Bon, je suis là dans la réalité. Si j'étais vraiment à ta place, j'aurais fait ce que tu as fait, franchement. Parce que j'aurais été toi, avec tes croyances, ton identité, ta façon de faire. Mais si je vous dis si j'étais à ta place, c'est parce que j'ai des règles pour moi et je pense qu'elles s'appliquent à toi. D'accord. Mes règles pour moi, mes règles pour toi. D'accord. Même s'ils ne sont pas exactement les mêmes, j'ai quand même des règles pour toi. Donc si j'étais à ta place, je ferais ceci, cela. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce schéma. Bon, c'est la majorité, mais ce n'est pas tout le monde. Deuxième schéma, on appelle ça « à moins, à moi, point ». Ça veut dire « mes règles pour moi et je ne me préoccupe pas des autres ». Alors, vous voyez l'image là. Moi, j'appelle ça le schéma parisien. C'est pourquoi j'ai quand même vécu 5 ans à Paris. Alors, au moins donné, pendant 5 ans de temps, j'ai vécu, non pas 5 ans, mais j'ai vécu quelques années dans un petit appartement, dans un quartier résidentiel, sur une petite rue. J'étais au 5e étage, et là, tous les samedis soirs, vers 3 heures du mat, la même chose arrive tout le temps. C'est pour ça que j'appelle ça le schéma des Parisiens. C'est pas parce que c'est méchant, c'est juste que les gens ne se préoccupent pas de quelqu'un d'autre. C'est pas leur problème. Tous les samedis soirs, vers 3 heures du matin, il y a une voiture qui descend la rue. Et ils vont laisser partir quelqu'un. Mais je sais pas ce qu'ils font dans la voiture, mais ils prennent leur temps. Il y a toujours une deuxième voiture qui descend. Et qu'est-ce qu'il fait la deuxième voiture en attendant? Ma, ma, ma. On est entouré de millions de personnes qui étaient en train de dormir. C'est pas parce que la personne a décidé, tiens, je vais réveiller tout le monde. Non, c'est parce que on n'est même pas entré dans l'équation. Vous voyez? Donc, j'ai mes règles pour moi et vous autres, c'est pas mon problème. Vous voyez? Donc, c'est pas un truc méchant comme tel, c'est juste pas tenir les autres en compte.
Ce qu'on dit, ne pas savoir vivre.
Bah, ça, c'est un jugement. Alors là, on est rentré dans le jugement. Ah, ok. Donc vous voyez, c'est j'ai mes règles pour moi, mais vous, bon, c'est pas mon problème. Mais donc c'est à moi, point. Vous savez, vous comprenez un peu pourquoi j'ai appelé ça le schéma parisien. En rigolant, j'espère que les Parisiens ne seront pas trop offensés. Ok. Troisième schéma, oh oui, les à moi, point, c'est 3% de la population au travail. Et les à moi, point, en fait, c'est les gens qu'on va demander pour venir faire du tough love. L'amour dur, c'est-à-dire qu'on arrive, c'est en anglais on a une expression, c'est « my way or the highway ». Tu fais ce que je fais ou bien tu t'en vas. C'est comme ça. Et le tough love, c'est la même chose, c'est l'amour dur. Quand tu dois faire avancer les choses, peu importe les conséquences. Et on embauche parfois ces gens comme ça, lorsqu'une entreprise va très mal, il y a besoin de quelqu'un vraiment pour mettre les choses sur les rails. Et là, il ne faut pas, si tu vas réussir à ça, et que tu prends en compte ce que tout le monde veut tout le temps, tu n'y arriveras pas dans ce genre de tâche. Mais c'est que 3 personnes à la fois. Dans les collections, par exemple, le métier de collection, vous avez ça en France, c'est les gens qui font payer les autres. Quand quelqu'un n'a pas payé ses factures, on envoie ça, c'est une entreprise de collection. Vous appelez ça comment?
Huissier.
C'est ça, c'est un peu ça. Le à moi, point. D'accord? Et alors, le troisième schéma, c'est à peu près 7% de la population, c'est le non à moi. Je ne sais pas quelles sont les règles pour moi et j'ai des règles pour vous. Ça, et c'est souvent ça peut être le schéma des cadres moyens. C'est-à-dire qu'ils reçoivent les règles, les politiques venant en haut, ils peuvent les transmettre. Mais quand tu vas leur demander, mais qu'est-ce qui sera un bon moyen pour toi d'augmenter ta réussite? Parfois, ils ne savent pas. C'est pour ça que lorsqu'il y a des périodes difficiles économiques où on va congédier beaucoup de middle management, le management de cadre moyen, par la suite, au Canada, aux États-Unis, on a dû développer beaucoup de groupes de soutien pour ces gens-là parce qu'ils n'avaient pas des règles de fonctionnement propres à eux pour savoir comment faire avancer la carrière sous ces conditions-là. Donc, c'est parce qu'ils ils savent pas quelles sont les règles pour eux dans ce contexte-là, mais ils ont des règles pour les autres. Et dans les cas de thérapie, souvent quelqu'un qui est en difficulté, un des schémas qu'il va avoir, quelqu'un qui est coincé, qui a un problème, c'est dans ce schéma-là. Je ne sais pas ce que je dois faire. Au fond de moi, je ne sais pas. C'est pour ça que je suis venue te voir. Donc, c'est dans le non à moi. Et le dernier schéma, c'est 15% de la population, c'est structure des règles à moi, à vous. Mes règles pour moi, vos règles pour vous. En fait, c'est l'objet de la plupart de la formation en PNL. C'est le fait que tu peux voir, chacun sa règle, c'est tu peux voir deux perspectives à la fois. J'ai mon modèle du monde, tu as le tien. Okay. Et ça a des conséquences pour les leaders aussi. C'est très bien pour les médiateurs, des consultants parfois, mais en leadership, c'est à moins d'avoir un groupe très mature, ça donne de l'insécurité parce que les autres ne savent pas ce que tu veux. Mais c'est pas à moi de te dire comment faire ton job. Si tu as un employé qui est nouveau, c'est pas ça qu'il a besoin d'entendre. Ok, il y a des conséquences, il y a aussi des relations de couple, mais on va en parler dans quelques instants. Et donc, sur la page 32, on a la structure des règles, comment l'identifier. Alors, comme vous savez, il y avait deux questions qu'on a posées, oui. Dont le premier, c'était qu'est-ce qui serait un bon moyen pour toi pour que tu augmentes ta réussite dans ton travail. Alors, première chose, est-ce que la personne, elle a une réponse? Si la personne dit, oui, fixer des objectifs, faire un plan, suivre ton plan, évaluer les résultats, elle a des règles. Alors, donc, premier plan. Si elle a une réponse pour la deuxième question, c'est à moi. Donc, je vous donne un exemple, par exemple. Mettons, vous posez la question, qu'est-ce qui serait un bon moyen pour vous d'augmenter votre réussite? Et la personne a dit, eh bien, travailler plus, être mieux organisé. Et si vous le dites, et pour quelqu'un d'autre, elle dit, eh bien, la même chose. Ou si elle dit, bon, il faut avoir un objectif, il faut connaître son niveau de compétence, et vous apprendre. C'est à moi. Elle a eu des règles et pour elle-même et pour quelqu'un d'autre. Mmh. Ok? Si elle dit, par exemple, première question, qu'est-ce qui serait un bon moyen de réussir et de mieux réussir? Et là, la personne dit, mais faut que je sois mieux organisée. Et là, tu dis, et pour quelqu'un d'autre? Et là, elle a dit, pourquoi tu me poses la question sur quelqu'un d'autre? C'est pas mon truc. C'est chacun se débrouille lui-même. Elle indique que c'est pas son problème. Ça, c'est à moins point. Vous me suivez? Mm-hmm. Troisième, c'est pour non à moi. Si vous posez la question, qu'est-ce qui serait pour toi un bon moyen d'augmenter ta réussite? Et la personne, elle vous répond de cette manière. Qu'est-ce qui sera pour moi un bon moyen d'augmenter ma réussite? Être mieux organisée? Ouais. Vous voyez, elle n'a pas de réponse pour elle. C'est-à-dire, elle est allée chercher à l'intérieur, elle ne trouve pas. Elle a sorti peut-être un truc, mais pas de manière définitive. Elle dit avoir un objectif. Bon, elle n'est pas certaine de la règle. Une règle, c'est quelque chose de certaine. Elle n'a pas de règle. Alors, tu poses la question suivante. Et pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui sera un bon moyen pour que quelqu'un d'autre qu'il augmente sa réussite? Eh bien, il faut avoir des objectifs, il faut suivre un plan, être organisé. Alors, je sais que la plupart d'entre vous, vous ne croyez pas qu'il y a des personnes où c'est possible de ne pas savoir pour soi-même et de savoir pour les autres, mais je vous dis, vous allez rencontrer ça.
Oui,
ok, c'est sûr, ok.
Oui.
Alors, la quatrième, qui est 25% à moi, à vous, qu'est-ce qui sera un bon moyen pour vous d'augmenter votre réussite? Là, elle va avoir une réponse. Et pour les autres, au lieu de dire que c'est pas mon problème, les autres, elle va dire, mais écoute, chacun est différent. Tu peux pas dire pour une personne une chose ou une autre. Chacun est différent. Donc, il doit suivre ce qui lui est, pour lui, ce qui est important. Donc, elle dit qu'elle ne présumera pas savoir ce qui est bon pour quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que vous voyez un peu comment me dépouiller? Alors, allez voir votre partenaire juste pour vérifier votre schéma. Y a-t-il des commentaires ou des questions sur le dépouillement de la structure des règles?
Relativement rapide.
C'était relativement rapide.
Oui. Oui.
Vous savez, pour le à moi, c'est pas nécessaire que la personne a les mêmes règles pour quelqu'un d'autre. La question, c'est seulement est-ce qu'il a les règles pour lui-même? Est-ce qu'il a les règles pour les autres? Quelles sont les conséquences des différents schémas en termes de comportement? C'est ça qui est intéressant. Quelqu'un qui a le schéma à moi, et c'est la plupart des êtres humains, c'est relativement facile de dire aux autres ce qu'on attend. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réticence à le dire. Parce que j'ai des règles au fond de moi, pour moi, et j'ai des règles pour toi aussi. Donc, ce que j'ai besoin, c'est ceci, cela. Et vous voyez, en style de management, ça fait un style assez directif. Et pour un groupe d'employés qui ne connaissent pas bien le travail, etc., ou qui ont besoin de savoir les objectifs, c'est très, très, très adapté. Quelqu'un qui a à moi, point, en tant que leader, en tant que chef, il fait ce qu'il veut et les autres se débrouillent parce que c'est pas son problème. Donc c'est pas parce qu'il a pas des attentes, il dit, il est vraiment pas concerné par les autres. C'est pas un truc méchant. C'est juste, il n'est pas concerné, c'est tout. Un truc méchant, ou là, c'est vraiment la personne qui a des intentions néfastes à l'égard de quelqu'un d'autre. Lui, il n'a pas d'intention à l'égard des autres, c'est tout. Quelqu'un non à moi, elle a besoin de recevoir de la direction. Parce qu'elle ne sait pas comment il faudrait qu'elle fasse.
Elle n'est pas apte au commandement.
Et lorsqu'elle est dans ça, elle n'est pas apte au commandement. Alors par contre, alors vous allez voir, plus que vous connaissez le profil lab, et on fait beaucoup ça dans les cours avancés et dans la certification, c'est les combinaisons de schémas. Quels sont les schémas qui rajoutent à un certain comportement? Alors vous prenez par exemple quelqu'un qui a un schéma non à moi, et vous rajoutez le fait qu'elle soit en externe, dans le même contexte, ça donne quoi? Non à moi, plus externe. Elle est réceptive d'un côté, elle a besoin de quoi?
C'est un exécutant.
C'est un exécutant qui fait quoi? Qu'on lui dise comment faut faire, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire, dans quelles règles, quelles sont les règles de conduite? Si on rajoute qu'elle est réactive, à ça, vous voyez, on commence à construire les combinaisons. Qu'est-ce qui se passe en termes de comportement?
Elle ne fait rien tant que
quoi? Tant qu'on lui a pas dit.
C'est un bon soldat.
Un exécutant, ouais, un soldat par exemple. On attend, on est là, on attend qu'on nous dise quoi faire. Alors, mais par contre, mettons, on a externe et non à moi, plus proactif. Qu'est-ce que la personne va faire? Donc, elle n'a pas de règles pour elle, donc elle a besoin qu'on lui donne les règles. Elle est externe, donc elle a besoin vraiment d'un feedback externe, mais elle est proactive et non pas réactive. Ça donne quoi?
Elle prend des initiatives dans le cadre donné.
Voilà, elle va aller demander ce qu'elle a besoin de faire. Vous voyez? Donc, vous pouvez commencer à combiner les différents schémas pour pouvoir prédire le comportement. Et il y a des schémas qui rajoutent à un certain comportement, qui l'augmentent. Il y a les schémas qui diminuent. Par exemple, externe plus non à moi, ça rajoute. Tu mets réactif en plus de ça, ça rajoute à ce comportement, pas savoir pas quoi faire et peut-être être coincé. Mais si tu changes réactif à proactif, là au moins elle prend l'initiative d'aller chercher de ce dont elle a besoin. Je vous explique la raison pour laquelle j'ai choisi de m'investir dans le Profil Lab. Il y a des problèmes et des avantages. Il y a beaucoup de schémas. On a quand même étudié beaucoup de schémas dans la profile. Mais il me semble qu'il y a des distinctions suffisamment utiles qu'on peut vraiment faire une analyse de qu'est-ce qui peut se passer, qu'on peut prédire, comprendre et vraiment influencer ce qui se passe parce qu'on fait des distinctions. Et on peut commencer justement à s'entraîner, à voir qu'est-ce que ça fait si. Et quand tu fais par exemple un profil de poste pour le recrutement, c'est très utile de pouvoir faire ça. Et dans le livre Le plein pouvoir des mots, il y a une procédure justement d'analyse de poste pour vous aider à construire un peu le profil de poste, par exemple. Vous pouvez aussi faire le profil de l'époux ou l'épouse idéale. Pourquoi pas? Donc, de passer une annonce qui appelle juste la bonne personne. Voilà. C'est possible. Et que les autres ne postulent pas. C'est ça l'idée. Hein? Bon, à moi, à vous, ça c'est quelqu'un qui a la capacité de tenir en même temps dans sa conscience le fait qu'il y a au moins deux façons de faire. C'est la personne qui va voir l'autre côté de l'histoire. J'ai un frère un peu comme ça, je dois vous dire, ça me casse les pieds des fois. Je me souviens d'un événement lorsque nos enfants étaient jeunes. On était allés, lui et sa fille, moi et mes garçons, on était allés dans une piscine à vagues. Vous avez des piscines à vagues? J'adore ça. Donc, c'est comme si on est à l'océan sans le goût de l'eau salée. Voilà. Mais on a la chlorine en plus, mais bon. Et ma nièce avait 5 ans. Et moi, j'étais en train de jouer dans la piscine avec ma nièce. Elle est grande maintenant, mais c'était une petite poisson. Elle passait tout son temps en dessous de l'eau. Et on jouait, on chantait, elle faisait le tour de moi, on jouait. Et tout d'un coup, j'entends le grand sifflet des sauveteurs. Ils demandent que tout le monde sorte de la piscine et un énorme sauveteur m'arrache, moi et ma nièce, de l'eau. Parce qu'il croyait que j'étais en train de noyer ma nièce. Alors, il devait mesurer au moins 1m80, alors que moi je mesure à peine 1m52.
ils m'arrachent de l'eau, ils mettent sur le côté, et là, il y a 300 personnes qui nous regardent. Oh. Et alors là, j'ai explosé. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez à m'arracher de l'eau comme ça? Vous vous prenez pour... Alors, je venais de débarquer de la France, donc j'ai fait un peu à la française, parce qu'au Canada, on ça se fait pas, on ne gueule surtout pas. Mais ça faisait uniquement 6 mois que j'étais de retour de la France, donc j'ai fait quand même un peu à la française. Et alors, le gars, il avait 16 ans, donc il était complètement intimidé par... et en plus, c'était un Canadien. Alors... il était mal pris. Alors j'étais en train de gueuler parce que j'avais honte devant ces 300 personnes qui me regardent comme si j'étais en train de noyer ma nièce. Alors je suis en train de gueuler et là il y a mon frère aidant qui nous approche. Il écoute pendant un certain temps et là il dit au sauveteur, je comprends pourquoi tu as pensé qu'elle se noyait.
Oui.
Et j'ai dit, quoi? Parce que moi je comprenais que son travail c'était venir me soutenir. Mais Jonathan, il a la capacité de voir les deux côtés de l'histoire. Donc, c'est quand même une compétence positive. Mais c'est une question de timing, comme on dit en anglais.
Il s'est pas mis en médiateur, là.
Il sait pas, mais il voulait, mais moi j'avais besoin de soutien. Moi je pensais pas que c'est ton travail de médiateur. Moi je voulais son soutien, vous voyez? Alors, c'est très bien d'avoir une compétence au bon moment. Vous êtes d'accord?
Oui. Voilà. Il aurait fini sa phrase, hein, je comprends ton énervement parce que tu étais pas en train de la noyer.
Moi j'aurais mieux aimé qu'il commence avec ça, quand même.
Voilà.
Quand même. Mais c'est la compétence de médiateur. C'est la personne qui est capable de voir ça, de voir un point de vue et de voir l'autre en même temps. C'est très utile. La formation en PNL, ça vise à dégager ça chez vous, les former, que vous êtes capable de voir que votre modèle du monde, c'est pas la seule. C'est pas le seul modèle du monde possible. C'est un jugement. C'est-à-dire que, ah bon, les gens sont différents. En termes de comportement, lorsque vous êtes dans un mode à moi, à vous, vous êtes un peu réticent de dire aux autres ce que vous attendez. Pourquoi? Parce que vous croyez, mais ils sont pas comme moi, vous, tu es ton modèle du monde. Alors, ça vient pas à moi de te dire comment faire. Ça veut pas dire que tu n'as pas des attentes.
Mais on n'arrive pas.
Mais vous avez une certaine réticence. Dans les vies de couple, parfois vous allez voir qu'une personne dans le couple a envie de quelque chose, mais n'ose pas le dire ou ne se sent pas à l'aise pour le dire. Oui, parce qu'on ne veut pas imposer, voyez. Donc, lorsque vous faites un peu de psychothérapie, de couple, c'est très bien de savoir qui fait quoi dans les structures de règles pour savoir où se trouvent quelques-uns des enjeux. Si la personne dit « j'ose pas lui dire » ou « je pense pas que c'est ma place de lui dire », c'est un peu ça, d'accord? Commentaire, question? Est-ce qu'il y a des endroits dans votre travail ou la vie de tous les jours où vous voyez des exemples de ces différents schémas? Par exemple, il y a un exemple auquel vous pensez? Jean-Guillaume, il y en a un auquel tu as pensé?
Oui, c'est une patiente, un jour elle vient.
Un peu plus fort.
J'ai une patiente, un jour elle vient me voir parce qu'elle a un conflit avec son mari qu'elle ne supporte absolument plus. Et je lui dis, donnez-moi un exemple. Elle me dit, hier soir. Elle était vraiment en colère. Je dis, ok, c'est passé quoi hier soir? Elle me dit, je rentre. On est venu en réunion, je sais pas quoi, elle rentre à 10h, 11h du soir. Tout était éteint, mon mari était devant la télé, ok. Et je lui dis bonjour, il me répond pas. Je vais dans la cuisine, il arrive à sa gueule enfarinée, il dit, ah, ma chérie, t'as passé une bonne soirée. Et là, elle le jette. Donc, je lui dis, ok, on va reprendre. Donc, vous rentrez, pour vous, c'est éteint, ça veut dire quoi? Elle me dit, fais la gueule, bon.
C'est clair, il fait la gueule. Non, c'est noir, il fait la gueule. Oui, il fait la gueule, ok, d'accord.
Après, je lui dis, ok, mais est-ce qu'il y aurait une autre raison, à part fasse la gueule qui pourrait être dans le noir? Elle me dit, non, mais il m'a pas répondu après, quand j'ai dit bonjour. Je lui dis, oui, mais est-ce qu'il y aurait une autre raison qui fait qu'il vous a pas répondu? Ouais, peut-être il était dans son film. Ah. Oui, non, mais vous le connaissez pas. D'accord. Et j'ai dit, est-ce que si on suppose qu'il était dans son film et qu'il a même regardé son film peinard et qu'il vous a pas entendu, ça pourrait expliquer qu'il arrive gentil après dans la cuisine et qu'il vous dise, ma chérie, t'as passé une bonne soirée. Elle a blanc dans le cerveau chez la dame. Et bon, elle réalisait qu'elle était toujours en interprétation. Donc elle était
à moi, c'est ouais. Ça veut dire pour moi, ça veut dire ceci pour moi, et donc je projette que ça veut dire ça pour l'autre. Ouais.
Donc elle fait des hypothèses, mais elle vérifie jamais.
Voilà, voilà. Et dans d'autres couples, tu vas voir une personne qui se plaint d'un autre, et là tu vas leur poser la question, est-ce que tu as dit ça? Ah non. Est-ce qu'il est au courant? Mais il devrait être au courant. Non, elle n'est pas de mauvaise foi, c'est que lorsqu'on est dans le « à moi, à vous », ça sort pas, on a du mal, on est réticent, on n'ose pas des fois.
On peut se corriger, on peut...
C'est quand pas on une sentence à mort
quand on
ou à vie.
Connaît, on peut faire...
Ben oui, c'est pour ça qu'à la prise de conscience, ça peut être utile. Oui. Comme tu viens de faire à cette dame, tu lui as fait prendre conscience qu'il y a peut-être un autre modèle en jeu. Donc tu l'apprends un peu à moi, à vous. C'est ça pour vous, mais peut-être pour lui, c'est autre chose. Voyez-vous, donc c'est dans ce cas, c'est très utile. Vous voyez, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un qui est mauvais et l'autre qui est bon. Ça dépend de ce que tu essaies de faire et quel est le problème. C'est tout. D'accord. Autre lien ou commentaire là-dessus? C'est intéressant tous ces différents schémas. Hein? On voit les applications.
Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des comportements qui sont adaptés dans certaines situations et pas dans d'autres.
Exactement. Ils sont adaptés dans certaines situations et non pas à d'autres.
Et suivant la personne.
Et suivant la personne aussi, et son objectif, et son besoin, et le besoin des autres autour aussi. Donc on commence à avoir un peu de recul par rapport à ça. On dit, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a besoin, etc.
Ça va avec l'autonomie de la personne qui est en face, en fait.
Qu'est-ce que tu entends par ça?
J'entends par là, si c'est à moi, si la personne en face de moi est très peu autonome, je vais pouvoir lui donner du positif en lui mettant des règles.
Voilà.
Hein? Si au contraire elle est extrêmement indépendante et autonome, le à moi point, bah, c'est pas
gênant. Ça fait pas de mal, voilà.
Au contraire, même ça la laissera tranquille. Si c'est le non à moi et que la personne est autonome, eh bien ça peut avoir un sens très négatif parce que l'autre elle va dire attends là, elle sait pas quoi faire elle et puis elle va venir me dire moi. Et si la personne est pas autonome, elle aura quand même ses règles et elle sera contente. Et puis le à moi à vous. Si la personne est autonome, eh bien, ça va fonctionner. Et si elle ne l'est pas, eh bien,
ça la gêne. Pas, ça ben oui, c'est ça. Très bien. Ouais. Très, très bien. Et on peut regarder ça mais dans le contexte d'être parent d'enfant.
Oui.
Alors, parfois, on va voir les parents qui n'ont aucune règle pour leurs enfants et ils font tout et n'importe quoi. Alors, c'est quel schéma, ça?
Non, ben c'est le à moi, à moi.
Parfois, c'est à moi, à vous. C'est le parent ne pense pas à établir les règles aux enfants. Et on lui demande pourquoi. Elle dit, mais tu vois, c'est mon enfant, mais il est différent de moi. Alors, c'est moi, je sais ce que j'ai à faire. Je pense qu'il doit savoir ce qu'il a à faire, lui.
Ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que c'était vraiment... Mais alors, très contextuel et encore plus contextuel.
Oui, voilà.
Moi, je peux être à moi, à vous, dans certains
cas, à certains moments, oui.
Avec mes enfants, je n'étais pas...
Non. Et là, justement, la lutte parents-enfants, lorsqu'ils sont adolescents...
C'est à moi, à moi.
C'est que les parents restent dans le à moi, comme quand ils étaient plus jeunes, oui. Et les enfants réclament qu'ils ont le droit eux-mêmes d'établir les règles et ne veulent pas avoir de vos règles.
Oui.
Donc, il y a ça, la lutte essentielle. Ouais. Et d'ailleurs, souvent, les adolescents, à mon expérience, je ne sais pas si c'est vrai parce que je n'ai pas fait la recherche, ont, vis-à-vis de la famille, ils ont à moi, point.
Point,
oui, c'est clair.
Tout à fait,
oui,
c'est sûr. Mais pas vis-à-vis,
pas vis-à-vis des amis.
Eh oui.
Non, voilà.
Ni vis-à-vis, quelquefois, d'autres adultes.
Oui, mais maman, papa, sûrement. À certains moments.
À
oui, voilà.
Certains moments de...
Voilà.
De c'est vrai.
Alors, ce qu'on dit souvent en anglais, c'est que à 13 ans, ton enfant disparaît, il est remplacé par un monstre, et là, il revient vers l'âge de 21 ans à peu près. Et que vraiment, il faut de la patience et de l'endurance parce que c'est pas vrai, c'est un extraterrestre qui a remplacé dans le corps de votre enfant et c'est quelqu'un d'autre. Voilà, on dit souvent ça.
J'ai vérifié.
C'est pas une vision optimiste de l'adolescence, mais.
Ça très violent comme
méthode. Ouais. Mon monstre extraterrestre, c'est peut-être plus gentil. On peut avoir des extraterrestres plus gentils.
Sur la structure.
Monstre gentil.
Aujourd'hui, 21, c'est trop tôt. Hein.
C'est trop tôt, hein. Bon, ça va dépendre de l'enfant, n'est-ce pas? Voilà.
Peut-être des parents.
Oui, ça, c'est le point de vue du parent. C'est peut-être pas le point de vue de l'enfant. Ou du voisin qui regarde cette famille-là, ou le psychothérapeute. Vous voyez, il y a tous ces points de vue-là. Oui. Et quand tu dis c'est violent, c'est quel schéma dans la structure des règles? Non. C'est à moi, à moi. Voilà, voilà, voilà. Bien. Ok. Bonne discussion, merci beaucoup. Ça, c'est des exemples très concrets, très pratiques de la vie de tous les jours. Ok, Ok, langage d'influence, là j'ai marqué aucune phrase particulière, mais bien sûr vous pouvez vous assortir à ça. Si vous parlez à quelqu'un qui a à moi, vous pouvez lui dire en termes de langage de persuasion, vous lui dites, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce qu'il faut dire aux autres. Ça c'est un langage de persuasion, structure de règles. Vous avez quelqu'un qui a à moi, point, vous pouvez lui dire tout simplement, bon, vous savez ce qu'il vous faut faire. Ça ne concerne pas les autres, mais vous êtes clair. Vous voyez, donc on peut s'assortir, on peut synchroniser sur justement le schéma. Quelqu'un non à moi, je dis, c'est peut-être pas clair pour vous, mais vous savez comment font, etc. Comment font les autres. Pour un moi à vous, vous pouvez dire, c'est clair que tout le monde n'est pas pareil et que chacun a besoin des choses différentes. C'est pour ça que, voilà.
Vous pourriez faire comme moi.
Par exemple, tu sais, alors ça c'est très fin, alors c'est très très fin parce que avec la formation PNL on adopte la moi à vous, mais on sait ce qu'il y a au fond. C'est ça. Bien, merci beaucoup Jean-Guillaume, c'était très bien. Alors là, maintenant, je vous donne aussi deux questions et c'est la dernière catégorie du profil lab. On va le faire tout de suite, mais on a sauté une catégorie qu'on va faire tout à l'heure et je vous expliquerai à ce moment-là pourquoi on l'a sauté. Donc, on fait les dernières catégories. C'est comment sais-tu que quelqu'un d'autre, un collègue, par exemple, dans le même métier que toi, est performant dans son travail? Là, tu écris la réponse de votre partenaire et ensuite vous reprenez sa réponse et vous dites combien de fois dois-tu voir, entendre, lire, faire, c'est-à-dire tu répètes ce qu'elle dit, combien de fois il faut faire ceci pour que tu en sois convaincu. Là j'explique. Shelley, comment sais-tu qu'un collègue est performant dans son travail? Mettons un autre formateur. Et là je vais dire quand je le vois travailler. Vous m'entendez? Quand je le vois travailler. Donc, vous reprenez exactement ma phrase et vous dites, Shelley, combien de fois dois-tu le voir travailler pour en être convaincu qu'il est performant? C'est-à-dire, le convaincu, c'est tu remets jamais plus en question. C'est acquis. C'est ça que tu veux savoir. Donc, d'abord, comment sais-tu que quelqu'un est performant dans son travail, un collègue, et combien de fois dois-tu... Et ensuite, tu remarques sa réponse pour en être convaincu. Et là, il faut stresser le mot convaincu. Parce que je pourrais dire aussi, comment sais-tu que quelqu'un est performant dans son travail? Je peux répondre, quand je lis ce qu'il écrit. Alors, combien de fois dois-tu lire ce qu'il écrit pour en être convaincu? Vous me suivez là?
Oui.
Ok. Donc, prenez un partenaire, vous posez les deux questions et on va voir comment ça se fait pour vous convaincre de quelque chose.